Europe Soir Weekend.
Lionel Gougelot vous informe sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, voici le journal de Raphaël Delvolvé. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Il est 19h. Et à la une de l'actualité de ce dimanche 23 janvier, hommage et réaction multiple après la mort d'Alexandre Martin, ce soldat français tué au Mali.
C'est le 53e depuis 2013 et le lancement des opérations françaises au Sahel. Ce jeune brigadier a été tué lors d'une attaque au mortier à Gao. Cette nouvelle perte relance le débat sur la présence française dans la région. Dans ce journal, nous irons aussi en Alsace avec l'hommage aujourd'hui aux disparus du crash du Mont Saint-Odile. C'était il y a 30 ans. Et puis, dans la deuxième partie, nous évoquerons évidemment le pass vaccinal. Et oui, il entre en application demain. Reportage en Serbie également, où malgré l'existence d'un pass sanitaire, la moitié de la population n'est pas vaccinée contre le Covid. Large page sportive également à suivre. L'Hub, Sébastien de son prénom, est éternel. Il a remporté le rallye de Monte Carlo à presque 48 ans aujourd'hui. Sans oublier le football, la Ligue 1, Monaco bat Montpellier bat Monaco 3-2 et Steph Blatter, invité exceptionnel d'Europe 1 ce soir, Lionel Rosso nous rejoint tout à l'heure.
La tendance météo, Valérie Darmon, bonsoir.
C'est simple, on prend les mêmes et on recommence. Du gris sur une grosse moitié nord, du soleil sur tout le reste de la France et des températures stationnaires comme l'anticyclone qui nous protège.
Merci Valérie, météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
Le président de la République fait part de sa vive émotion après la mort d'un soldat français au Mali.
Le brigadier Alexandre Martin, mort des suites de ses blessures à Gao hier, un camp militaire français a été visé par une attaque au mortier. Zoé Pallier, Alexandre Martin est le 53e soldat français à mourir au combat.
Oui, Alexandre Martin qui avait 24 ans, il combattait au sein de la force Barkhane depuis octobre dernier et il a donc perdu la vie dans cette attaque contre la base française de Gao, c'est dans le nord du Mali. Il était 17h hier quand une dizaine d'obus se sont abattus sur le camp, détaille Hervé Grandjean et les porte-parole du ministère des Armées.
Le brigadier Alexandre Martin est décédé rapidement de ses blessures malgré une prise en charge immédiate par l'antenne médicale militaire du camp de Gao. 9 autres soldats français ont été blessés. Leurs blessures ne présentent aucun caractère de gravité. Dans la foulée, nous avons fait décoller une patrouille d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque qui ont intercepté et neutralisé les assaillants. À ma connaissance, l'attaque n'a pas été revendiquée et nous ne savons pas s'il s'agit de terroristes plutôt affiliés à Al-Qaïda ou à Daesh.
Alors sur la base du brigadier Martin, hier dans le Var, c'est évidemment le choc. Le drapeau est en berne. Une cellule de crise a été mise en place pour les proches et autres militaires du régiment. Et une cérémonie d'hommage devrait avoir lieu dans les prochains jours.
Merci Zoé Pallier. De nombreuses réactions politiques des candidats à la présidentielle saluent la mémoire d'Alexandre Martin, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse ou encore le communiste Fabien Roussel, le candidat du PCF qui appelle à la fin de la présence française au Mali. Cette nouvelle perte fait évidemment et inévitablement ressurgir le débat sur la pertinence, l'intérêt de la mission militaire au Sahel. Louis de Raguenel, ce drame tombe mal pour le président Emmanuel Macron.
Oui, cet événement tragique intervient alors que toutes les conditions fixées par le chef de l'État à la junte malienne ont été violées. Pas de partenariat avec la société militaire privée russe Wagner. Aujourd'hui, on compte entre 450 et 500 hommes de cette unité paramilitaire sur place. Autre condition, l'organisation d'élections démocratiques en février. Aujourd'hui, la junte ne veut pas en entendre parler et évoque la possibilité de nouvelles élections, mais seulement dans 5 ans. Enfin, la France avait fermement demandé aux Maliens de ne pas discuter avec les groupes terroristes. Et il y a quelques mois, les militaires maliens ont mandaté 2 terroristes chevronnés, 2 cibles de la France d'ailleurs, pour aller dialoguer avec les organisations terroristes. Pour terminer, le chef de l'État, qui fait un point à chaque conseil de défense sur le Mali, semble coincé entre son intention de se désengager et en même temps ne pas laisser le Mali s'effondrer et tomber entre les mains de groupes terroristes.
Le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguenel.
Les autres informations dans l'actualité internationale, Raphaël.
Des talibans afghans en Europe, à Oslo, en Norvège. Une délégation qui est arrivée ce matin et qui évoquera ces 3 prochains jours la crise humanitaire et les droits humains en Afghanistan. Des entretiens sont prévus avec des diplomates occidentaux, mais aussi des membres de la société civile afghane. Et puis le pouvoir ukrainien dit vouloir continuer à démanteler toutes les structures pro-russes. Dernière réaction de Kiev aux accusations portées par le Royaume-Uni contre Moscou. Londres affirme depuis hier soir que la Russie cherche à installer un ancien député ukrainien au pouvoir. Vous en parlez tout à l'heure dans Europe Soir avec Lionel Gougelot.
Effectivement, ça sera dans la dernière partie d'Europe Soir. Il est 19h05 sur Europe 1. Retour en France avec une centaine de personnes qui se sont recueillies ce matin sur les lieux du crash aérien du Mont-Saint-Odile en Alsace.
C'était il y a 30 ans, le 20 janvier 1992. 87 personnes perdaient la vie. Un A320 de la compagnie Air Inter s'écrasait sur un massif montagneux. Il y a eu 9 survivants. Leur famille était présente à l'hommage ce matin. Reportage signé Mélina Fachin.
C'est dans cette clairière enneigée, à l'endroit exact du crash, qu'une centaine de proches de victimes et de rescapés se sont retrouvés ce matin.
Tout bascule en ce maudit 20 janvier où la vie, celle de nos enfants, de nos parents, vole en éclats.
Avant d'observer une minute de silence, chacun dépose une rose au pied de la stèle sur laquelle figurent les noms des 87 victimes. Pierre Lota est l'un des 9 rescapés du crash.
J'ai toujours l'émotion quand j'arrive ici, quand je retrouve l'endroit où on est resté en attendant les secours. On avait très très froid, peur de mourir de froid. Il y avait un tout petit feu qui brûlait près de la queue de l'appareil. On a alimenté, vous voyez, avec toutes ces branches qu'on voit aujourd'hui, en attendant les secours. C'est quelque chose qui nous lie, voilà, c'est indescriptible. Ça fait du bien de se retrouver.
Raphaël, qui a perdu son père dans la catastrophe, trouve lui aussi beaucoup de réconfort dans cette cérémonie.
Ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qu'on connaît finalement maintenant depuis 30 ans. Et on partage des émotions, on partage des souvenirs. C'est pas facile, mais ça fait du bien quand même, ça rapproche en tout cas.
Et c'est souvent dans un sourire que les familles quittent lentement les lieux, ensemble, en se jurant de ne jamais oublier. Mélina Fachin, au Mont-Saint-Odile, Europe 1.
Il n'y avait ni bus ni tramway à Brest aujourd'hui. Service suspendu après des violences urbaines la nuit dernière sur le réseau. Un tramway bloqué ou encore un abribus incendié.
À suivre dans le journal. Demain, le pass vaccinal entre en application. Comment cela va-t-il s'opérer? Quel changement dans nos vies quotidiennes? Thibaut Hu nous explique tout juste après ça. A tout de suite.
Europe 1. Lionel Gougelot.
19h08 sur Europe 1, la suite du journal de Raphaël Delvolvé. Demain, Raphaël, le pass vaccinal entre en application.
Avec quelques jours de retard sur la date initialement prévue par le gouvernement, après un petit passage par le Conseil constitutionnel, le dispositif est donc prêt. Bonsoir Thibaut Hu.
Bonsoir.
Thibaut, ça va se passer comment cette transformation du pass sanitaire au pass vaccinal?
Eh bien, c'est très simple. Le changement se fait tout seul pour ceux qui ont déjà un schéma vaccinal complet. Si vous avez l'habitude de présenter votre QR code avec l'application TousAntiCovid, pas de manipulation à faire. C'est automatique, pas besoin non plus de faire de mise à jour sur votre téléphone.
D'accord, ça se fait tout seul, automatiquement. Le pass vaccinal implique quand même de nombreux changements dans nos vies quotidiennes, surtout si on n'est pas vacciné.
Eh oui, parce que comme son nom l'indique, ce nouveau pass implique que l'on soit vacciné. Alors si votre schéma vaccinal n'est pas à jour, un test négatif ne suffit plus pour se rendre dans les lieux où l'on demandait le pass sanitaire. Plus possible du tout donc, sans pass vaccinal, d'aller boire un verre, de manger au restaurant. Plus possible non plus d'aller au cinéma, à la salle de sport ou au musée. Un précieux sésame qui sera aussi indispensable pour monter dans un train et un bus longue distance, y compris pour prendre l'avion, aller à l'étranger. Par contre, le pass sanitaire reste actif pour les enfants de 12 à 15 ans, mais aussi pour accéder aux établissements scolaires et aux services de santé. Et ces mesures seront maintenues au moins jusqu'au 31 juillet.
Voilà, comme ça vous savez tout. Merci Thibaut Hu. Ce pass vaccinal, c'est la première étape du plan de levée des restrictions. Suivront ensuite la fin du port du masque en extérieur, du télétravail obligatoire et des jauges dans les lieux accueillants du public. Ce sera le 2 février. Et puis le 16, dernière étape avec la réouverture des discothèques, notamment les boîtes de nuit attendent ça avec impatience. Le secteur est très touché par cette crise sanitaire. Coup de gueule d'un patron de boîte de nuit dans Europe Midi tout à l'heure, celui de Morgan Dahl, également porte-parole d'SOS CHRD, collectif de soutien aux discothèques.
Le chômage partiel n'a pas encore été versé. On nous avait promis des cellules spécifiques pour les aides, pour les discothèques. Nous n'avons toujours rien. Et vous imaginez, on sera dans l'histoire de France la seule activité qui a été fermée 2 ans sans avoir de plan spécifique, de grand plan économique. On ne nous parle de rien pour le futur. Les aides ont peut-être été lancées administrativement, mais dans la réalité, il n'y a rien.
Morgan Dahl, patron de boîte de nuit invité dans Europe Midi, il était au micro de Thierry Dagiral.
Et dans le même temps, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé se veut plutôt optimiste pour la suite de l'épidémie.
La fin de l'épidémie en Europe est plausible selon l'OMS. C'est grâce à l'hypercontagieux variant Omicron, il pourrait offrir une immunité globale. L'agence de l'ONU appelle toutefois à protéger les personnes les plus vulnérables en vaccinant massivement notamment. Et ça n'est pas toujours le cas en Europe. Allons au pays d'un célèbre opposant au vaccin. le Serbe Novak Djokovic. Caroline Baudry s'est rendue avec son micro européen à Belgrade.
Autour de la patinoire, au cœur de Belgrade, une foule de passants, la plupart sans masque et non vaccinés, comme Irina, 23 ans.
Je pense que mon système immunitaire est suffisant et je ne crois pas en ces vaccins. Si les gens sont plus vaccinés dans d'autres pays, je ne comprends pas pourquoi.
Peu importe le pass sanitaire que Milena est aussi incapable de présenter le soir dans les boîtes de nuit et restaurants.
Je ne vais plus en boîte comme avant, mais bon, il y a les soirées chez les gens.
Il y a un an, les Serbes étaient pourtant les plus vaccinés du continent grâce au vaccin chinois, grimace Alexander sous un bonnet orange flashy.
L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, ce sont eux qui auraient eu ces vaccins en premier si c'était quelque chose de si important. Ils ne l'auraient pas donné à notre petit pays de 5 millions d'habitants.
Le vaccin est une affaire politique, affirment ces Serbes. Malgré la vague de contamination Omicron qui frappe le pays, Milita, grand manteau noir, vacciné 3 fois, sort tout juste de la maladie.
Le virus est moins dangereux maintenant. Avant, j'étais très opposée aux personnes non vaccinées. Mais maintenant, je pense qu'ils avaient peut-être raison.
Lundi, 3 centres de vaccination de la capitale baissent le rideau, faute de candidats. Belgrade, Caroline Baudry, Europe 1.
On passe au sport, même en semi-retraite. Il reste un immense champion. Sébastien Loeb remporte le rallye de Monte Carlo.
Extraordinaire performance du pilote Ford. À presque 48 ans, il a devancé Sébastien Ogier et devient donc le plus vieux vainqueur d'un rallye au championnat du monde. Réaction de Sébastien Loeb recueilli par Frédéric Hélion.
C'est surtout le moment qui est sympa, c'est d'avoir réussi encore aujourd'hui à gagner un rallye alors que mon dernier championnat complet était il y a 10 ans. Quoi. Ça s'est bien passé sur ce rallye, j'étais content d'être dans le coup. Au début je ne savais pas trop quoi attendre et puis finalement on a réussi à être en bagarre devant et puis c'est un peu inespéré. Franchement je ne pensais pas être capable de gagner le Monte Carlo encore cette année, mais ouais c'était top, la voiture était super. Et donc voilà, on a tout qui nous a souri et puis on gagne le rallye à la fin, donc c'est un grand moment.
Voilà Sébastien Loeb à la sortie de sa 80e victoire en WRC, la catégorie reine.
48 ans, c'est jeune 48 ans. On passe au foot, Raphaël, avec la 22e journée de Ligue 1.
Oui, Montpellier-Monaco vient de s'achever. Romain Boselli, vous êtes au stade de la Mosson. Victoire de Montpellier, 3-2.
Eh oui, on a assisté à un très bon match ici à la Mosson entre Montpellier et Monaco, score final 3-2 pour le MHSC. Montpellier qui s'est fait peur dans cette partie après avoir mené 2-0. Eli Wahi à la 13e et Mavi Didi à la 32e avaient donné 2 buts d'avance au MHSC. On pouvait s'attendre à un match facile, mais Ben Yedder a réduit le score pour les Monégasques dans la foulée du 2e but montpelliérain. Le Brésilien Vanderson a ensuite égalisé à 10 minutes de la fin pour les Monégasques. Et en fin de match, Montpellier a poussé pour arracher la victoire. Et finalement, Mavi Didi a inscrit le 3e but dans le temps additionnel. Très, très belle rencontre entre Montpellier et Monaco.
Romain Boselli au stade de la Mosson. Dans les autres résultats du jour, Angers bat 3-2-1. Victoire de Nantes 4-2 contre Lorient. Bordeaux l'emporte 4-3 contre Strasbourg. Victoire de Clermont contre Rennes 2-1. Nice a battu Metz 2-0. Les Aiglons sont 2e ce soir. Le leader, le PSG, reçoit Reims. Coup d'envoi à 20h45. Ce sera à vivre dans Europe 1 Sport.
Évidemment, mon cher Lionel Rosso, bienvenue. Paris Saint-Germain, ça peut être une belle affiche ce soir.
C'est une très belle affiche à suivre en intégralité, évidemment, avec l'analyse en direct de nos experts. Mais juste avant, Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, sera notre invité exceptionnel. Interview en exclusivité et en intégralité. Je peux vous dire qu'il est un peu à la retraite, mais il assaisonne tout le monde, et notamment Gianni Infantino, son successeur, exactement, à qui il reproche déjà son incompétence, mais son projet d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Mmh. Il propose également, parce qu'il a une vision du football très précise, notamment pour les envahissements de terrain, que la responsabilité soit portée sur les clubs qui organisent et qui accueillent et que ces clubs soient amputés de 9 points s'il y a des supporters qui envahissent le terrain. Au moins comme ça, c'est radical. L'interview de Blatter, c'est ce soir.
Ça va être passionnant, on va écouter ça. Merci Lionel Rosso, à tout à l'heure. Il est temps de regarder la météo avec l'ami Valérie Darmon. Valérie, toujours beaucoup de grisailles au nord demain, hein?
Eh bien, les conditions anticycloniques se maintiennent sur l'Hexagone avec des formations de brouillard généralisées comme ce week-end sur la moitié nord, suivies d'une grisaille persistante. Les nuages sont toujours plaqués au sol. Dans l'ouest, le centre, la Bourgogne, la Franche-Comté, quelques éclaircies reviendront tout de même dans l'après-midi. Plus au sud, les brouillards ne sont pas nombreux et surtout très vite dissipés. Le vent d'autan va souffler modérément. Le vent marin va faire entrer des nuages bas sur les plaines du Languedoc. Ailleurs, la journée se déroulera sous le soleil. soleil. Au lever du jour, les thermomètres affichent moins 2 à 1 sur la moitié nord, moins 4 à 0 au sud en général, avec des minimales qui remontent jusqu'à 2 dans le domaine de l'OTAN. Les maximales qui atteignent 4 à 8 sur la moitié nord de la France, 9 à 12 au sud, 12 à 15 sur le pourtour méditerranéen.
Merci Valérie Darmon.